BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Et c'est donc la deuxième heure de BFM Patrimoine qui commence, comme à chaque fois, par un survol de l'actualité économique. On retrouve Stéphanie Collo.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collo.
Et à la une, c'est la réindustrialisation, la mère de toutes les batailles, selon Emmanuel Macron, qui organise aujourd'hui à l'Élysée une grande journée autour de la reconquête industrielle. Le chef de l'État présentera sa stratégie pour accélérer les créations d'usines dans les prochaines années. Notez que BFM Business délocalise son antenne dans les jardins de l'Élysée pour l'occasion, avec une émission spéciale de midi à 19h. En attendant, on retrouve Nathan Cocampo sur place, où de nombreux industriels ont répondu présent à l'invitation du chef de l'État, Nathan.
Oui, à commencer par les gros acteurs industriels. ArcelorMittal, Aluminium Dunkerque, Safran, Sanofi, des énergéticiens aussi, EDF, RTE, mais aussi des plus petites entreprises comme Néolith qui transforme des déchets en pierre. Voilà, une centaine d'acteurs du secteur réunis avec ministres et collectivités autour d'Emmanuel Macron. Et la présentation donc de ce cadre pour accélérer l'industrialisation du pays tout en diminuant l'empreinte carbone. Discours du président prévu à 16h sur notre antenne. Alors on s'attend d'abord à un bilan du chef de l'État avec un chiffre, celui de la création de 300 usines depuis son arrivée en 2017, mais ce, dans une industrie française en déclin. 2 millions d'emplois ont été détruits en 30 ans. Et aujourd'hui, si les annonces de création d'usines se multiplient, la période est toujours sujette à des pénuries de médicaments ou de semi-conducteurs, avec donc un vrai enjeu de souveraineté nationale sur des secteurs stratégiques. On s'attend donc aujourd'hui à des annonces pour pousser la robotique, l'hydrogène, l'aviation, le développement de médicaments français, des mesures pour faciliter les financements et l'implantation d'usines avec un allègement du cadre réglementaire. Emmanuel Macron veut aller deux fois plus vite. Le président va d'ailleurs annoncer un projet de loi concernant l'industrie verte. Il sera présenté en Conseil des ministres le 17 mai.
Merci beaucoup Nathan Cocampo. Autant d'initiatives en faveur de la réindustrialisation qui devraient continuer à doper l'attractivité de la France. En 2022, le pays est resté champion d'Europe pour les investissements étrangers selon le baromètre EY, avec 1259 projets accueillis, soit une progression de 3% par rapport à 2021. Bémol toutefois, l'enquête témoigne de la vigilance des groupes internationaux pour l'avenir. En Allemagne, les syndicats appellent à la grève dans les transports ferroviaires lundi et mardi prochain. Il s'agit du troisième mouvement depuis le mois de mars. Les cheminots veulent ainsi peser sur les négociations salariales dans un contexte de forte inflation. Gap France n'est pas placé en redressement. Décision du tribunal de commerce ce matin qui retient la candidature de JD Sport pour reprendre la marque de vêtements en difficulté. Montant de la transaction 300 000 euros. 214 emplois sont sauvés sur 336. Le groupe s'engage à ne procéder à aucun licenciement économique pendant 2 ans. Nissan prévoit une hausse de 38% de son bénéfice annuel en 2023 à 3,5 milliards d'euros, porté par des perspectives plus favorables pour les ventes et les volumes de production. Le constructeur japonais a contribué à hauteur de 311 millions d'euros au bénéfice de son partenaire Renault. Et puis dans l'aérien, Emirates annonce un bénéfice record de 3 milliards de dollars après 2 années de pertes dues au Covid. C'est grâce à une hausse des revenus de la compagnie de 81% à 30 milliards de dollars. Cédric.
Merci beaucoup Stéphanie Collo. Toute l'actu chaque heure sur BFM Business. Et nous tout de suite on plonge dans la déclaration d'impôt.
BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business.
Bonjour Jérôme Barré.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous, associé, avocat associé au sein du cabinet Yards. Alors cette saison, chaque année au mois de mai, on se dit on va profiter des ponts. Et puis ces ponts sont en partie gâchés parce qu'il faut remplir notre déclaration d'impôt. Et on va essayer, au cours de cette demi-heure, vraiment de brosser un maximum de questions pour que tout à chacun s'y retrouve. D'abord, on commence par l'essence. Le calendrier, c'est ouvert depuis maintenant un mois.
Un mois, le 13 avril, c'est ça. Et donc, on peut d'ores et déjà déclarer ses revenus par Internet, et le cas échéant, si l'on voulait, par papier. Évidemment, l'impôt sur la fortune immobilière qui doit être l'analyse des valeurs actives et passives immobilières au 1er janvier. Donc trois dates à retenir. Le jeudi 25 mai pour les contribuables qui sont domiciliés dans les départements du 1 au 19, ainsi que les non-résidents. Le jeudi 1er juin pour tous les départements du 20 au 54. Et ensuite, le jeudi 8 juin pour tous les autres départements, dont Paris.
Donc ça, c'est sur Internet, on l'a dit, puisqu'ouverture du site et ses déclarations avec ses dates régulières que tout le monde a maintenant un peu en tête avec les départements. Si on est encore réfractaire, si on est encore autorisé, qu'on le fait sur papier, qu'est-ce qui se passe?
C'est votre grand-mère qui est réfractaire de...
Non, tout va bien.
Bon, en principe, si la résidence principale est équipée d'un accès Internet, on doit déclarer par Internet. C'est la règle de principe. Toutefois, il y a une tolérance, on va dire en général pour les contribuables d'un certain âge, ou ceux qui sont réfractaires à un sujet en ligne, qui n'ont pas d'accès Internet, qui n'ont pas de numéro fiscal, qui sont soit non-résidents, soit primo-déclarants. Donc il y a des cas particuliers. Ce sont des personnes qui peuvent avoir accès à Internet, puis qui sont dans le cas particulier d'être non-résidents, primo-déclarants, pas de numéro fiscal, parce que pas encore connu. La date limite de dépôt papier, c'est le 22 mai.
On a donc toutes les dates, c'est noté, et puis bon, on s'y prend mal. On rate le coche pour une bonne ou une mauvaise raison. On va pas juger. Qu'est-ce qui se passe si je suis en retard?
Le principe, c'est qu'un dépôt tardif, c'est une pénalité de 10%. C'est une pénalité de 10% d'impôt supplémentaire. Si jamais j'ai un dépôt tardif, mais que je me fais tirer l'oreille et qu'il y a une mise en demeure de l'administration, c'est-à-dire un document recommandé qui m'est donné avec un délai et que je ne réponds pas à cette mise en demeure, mais là, l'administration peut passer de 10 à 20%. Et la deuxième mise en demeure, c'est 40%. C'est la pénalité dite pour manquement délibéré. Celle-ci, elle n'est pas bonne. Parce que, comme vous le savez, 40% ou deux fois 40% dans une certaine période et avec un redressement de 100 000 euros peut vous emmener directement chez le procureur.
Ah oui.
Donc, il faut faire attention à ce qu'on ne soit pas dans ce sujet-là. Ensuite, on a un intérêt de retard qui peut être facturé de 0,2 par mois, pas le premier mois. Alors, sur ce sujet-là, l'administration est bonne mère. Si vous avez une bonne raison, parce que vous étiez à l'étranger ou parce que, on ne vous dira rien. Mais on va quand même observer si vous êtes un habitué de ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire à l'administration.
Un premier oubli pour une raison justifiée et où c'est nous qui prenons les devants, ça se passe bien.
Voilà.
Un multiple oubli régulier où on attend que ce soit l'administration qui s'en aperçoive, ça se passe moins bien.
Ça se passe moins bien.
D'accord.
Si l'administration, elle va pas vous envoyer votre avis d'imposition sans les 10%. En général, elle vous envoie les 10%, même quasiment systématiquement. À vous de rediscuter cette question et d'évoquer vos arguments. N'attendez peut-être pas d'ailleurs de donner vos explications au moment où la note arrive. Il vaut mieux le faire avant.
Et c'est ça. Dès qu'on a, ça vaut d'ailleurs pour la déclaration comme pour toute question fiscale, plus on est à la manœuvre, on va dire, à l'initiative de la relation, plus Bercy le prend bien. Hein.
Exactement.
On va dire ça comme ça. Bon, on entend beaucoup parler de mécanismes de déclaration automatique. En plus, dans la tête des gens, ça allait avec le prélèvement à la source. Enfin voilà, on a l'impression que maintenant tout se déroule de façon quasiment automatique, non? De quoi il s'agit?
Alors, c'est pour les foyers fiscaux pour lesquels, quand ils regardent leur déclaration pré-remplie, toutes les informations sont données. À partir du moment où toutes ces informations sont données et qu'on n'a pas besoin d'en rajouter, on rentre dans le système de la déclaration automatique. Rentrer dans le système de la déclaration automatique, c'est-à-dire ne plus bouger, et ne plus bouger vaudra déclaration. Donc il faut être attentif, aller vérifier que on a dans cette déclaration pré-remplie tous les éléments. Alors, souvent, quand vous avez du personnel à domicile ou quand vous avez un revenu, parce que vous avez trois revenus qui sont à l'étranger et qui ne sont pas repris par les autorités fiscales françaises, ça vous oblige à rajouter. Donc vous ne serez pas dans le système automatique. Mais ce que vous pouvez faire, c'est aussi, s'il n'y a pas de changement, dans tous les cas, vous avez votre espace personnel, vous pouvez communiquer avec l'administration sur ce point et vous verrez à ce moment-là le récapitulatif des informations qui sont connues.
Le gouvernement fait un geste cette année sensible en faveur des contribuables. De quoi il s'agit exactement?
Alors, ce qui a été fait, c'est de relever le barème de l'impôt sur le revenu de 5,4%. Ce qui veut dire concrètement, c'est que si votre revenu, pour des raisons d'inflation, a augmenté de 5,4%,
on change pas de tranche.
Année, vous ne changez pas de tranche. Ah, oui. Vous ne paierez pas d'impôt supplémentaire. Donc c'est quand même un geste assez fort.
Geste en matière d'impôt sur le revenu, mais il n'y a pas que l'impôt sur le revenu, j'ai envie de vous dire, Jérôme.
Non, alors pour le reste, statu quo, rien en matière d'IFI, donc ça veut dire qu'on reste au seuil d'1,3 million. Rien en matière de droits de succession, si on a des valeurs qui sont appréciées, et se sont appréciées peut-être économiquement, mais également à cause de l'inflation, et rien en matière de droits de donation. Donc, ne pas relever le seuil de l'IFI, par exemple, revient exactement à augmenter la taxation, le seuil de l'impôt. Donc le débat revient en ce moment, vous l'avez entendu, sur le point de savoir si on touchera la franchise fiscale en cas de donation. Vous savez qu'on peut donner 100 000 euros en ligne directe par an enfant tous les 15 ans. Ce montant avait été bien supérieur dans le passé, il a été diminué, il a même été également...
Le délai de rappel a été raccourci, ouais, c'est ça.
On était à 350 000 euros tous les 6 ans, 250 000 euros tous les 6 ans, j'ai un petit trou de mémoire. Mais 100 000 euros, c'est assez vite fait tous les 15 ans, et pour des patrimoines qui évoluent avec le temps, et notamment avec cette question d'inflation, c'est très vite atteint.
C'est vrai qu'il y a tous les seuils un peu fiscaux, là, que ce soit l'assurance vie, rien n'a été re-managé, entre guillemets, à la lumière de l'inflation.
Du temps de l'ISF, vous vous souvenez, c'était déjà une préoccupation, parce que le taux de l'ISF...
Oui, avait été fixé.
À 1,5. Ouais. Et avec une inflation qui était à deux chiffres. Avec une inflation... Il y a une virgule entre les deux.
C'est ça.
Effectivement, il faudrait bouger. Ce serait sage de réévaluer ces.
Allez, on va continuer bien évidemment à parler fiscalité. On jette un tout petit œil auparavant sur les marchés. Suivront toutes les grandes nouveautés. Vous restez là, Jérôme. Vous bougez pas. Nous on rejoint Frédéric Rosier qui nous attend chez Mirabeau. Bonjour Frédéric.
Bonjour Cédric.
Qu'est-ce qu'on se dit de ce marché finalement? On a l'impression que on passe outre les chiffres d'inflation, qu'on s'est habitué.
Oui, bon, finalement, les chiffres d'inflation, par exemple, aux États-Unis montraient quand même qu'il y avait un tassement de l'inflation, notamment dû à l'énergie. On travaille énormément autour de niveaux. Je pense que tous les stratégistes d'analyse technique vous disent la même chose, autour de 7400 points, point un petit peu pivot, avec typiquement aujourd'hui des rebonds sur un titre qui avait souffert hier comme Alstom. Et c'est un marché, on va voir les PPI, par exemple, aux États-Unis, prêt à production. Donc, on verra un peu ce que ça donne. Mais clairement, on est un petit peu en zone un peu neutre là depuis quelques temps. On travaille autour, on va dire.
Est-ce qu'il y a quelques dossiers qui retiennent plus nettement votre attention?
Oui, un très beau dossier, c'est Engie qui a publié des résultats haute fourchette. Pour le coup, des résultats extrêmement encourageants avec des guidance qui sont aussi haute fourchette. Et ce qui est très intéressant pour les auditeurs, c'est le dividende. Hein, c'est des payouts et des distributions de 60 à 69%. Ça fait minimum 65 centimes pour le titre. Les résultats étaient en forte hausse malgré effectivement les fermetures du nucléaire. On a tout ce qui est la partie renouvelable qui ont tiré les résultats vers le haut. Les EBITDA sur l'année devraient tourner aux alentours de 11 et 12 milliards d'euros. Donc c'est une dynamique qui est très très forte, bien aidée quand même bien sûr par le prix de l'énergie, les solutions notamment offertes aux entreprises. Et c'est un titre aujourd'hui qui offre quand même un rendement élevé, des belles perspectives, de la solidité, un endettement relativement faible. Et donc il va peut-être profiter effectivement de la faiblesse au moment de la publication, parce qu'on a vu que le titre est en train de tourner clairement dans le vert à plus de 1% aujourd'hui.
Un petit mot d'Eiffage également?
Oui, Eiffage qui a publié une publication sans saveur. On avait les résultats de Vinci qui donnait quand même une indication plutôt favorable. Là, c'est, on va dire, milieu de fourchette, rien d'extraordinaire, mais quand même qui est en hausse de plus de 11% à quasiment 5 milliards. L'activité, notamment trafic, est relativement bonne, autoroutière est relativement bonne. Voilà, le titre réagit modérément, malgré effectivement des points positifs, notamment le carnet de commandes qui progresse quasiment 8%. On est sur des sommets quand même à quasiment 20 milliards, soit quasiment dans 14 mois d'activité. Donc voilà, des aspects plutôt solides sur Eiffage, mais un résultat qui est, on va dire, dans la moyenne de ce qu'attendait le marché.
Merci Frédéric. Frédéric Rosier depuis Mirabeau, et nous on reprend notre spécificité fiscale.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Toujours avec Jérôme Barré pour le cabinet Yards. On est en pleine déclaration. Est-ce qu'on va trouver des nouveautés, Jérôme?
Sur le fond, il n'y a pas de changement manifeste. On a vu que vous souvenez, on cochait pour la résidence, la redevance télé, plus de résidence télévision. La résidence télévision, par domicile, hein,
ouais, c'est ça.
Sans souvenir, et suppression définitive de la taxe d'habitation pour les résidences principales, ce qui nous amènera à parler d'autre chose. En revanche, le gouvernement a soutenu quelques niches fiscales, notamment les dépenses qui sont liées à la garde d'enfants, hein, en dehors du domicile, donc garde d'enfants en dehors du domicile, pas au domicile. Donc plafond du crédit d'impôt a augmenté, puisqu'on peut obtenir jusqu'à 3 500 euros, alors que dans le passé on était à 2 300 euros l'année précédente, c'est quand même significatif. Mm-hmm. Donc 1 750 euros par enfant, donc c'est la limite de 50% du montant des dépenses. Et en pratique, pour des dépenses de 4 000 euros, la base sera plafonnée à 3 500 et le crédit d'impôt sera de 1 750. Également, l'emploi d'un salarié à domicile, ce qui est aussi un vrai sujet.
Faut pas confondre avec l'enfant à domicile et le salarié hors domicile.
C'est à peu près ça. Le salarié à domicile, effectivement, lui, on doit indiquer, on a fait des sous-étages pour des petits travaux, on a fait une différence entre les travaux de bricolage. Là, vous avez une limite qui est flexée à 500 euros par an. Pour les prestations d'assistance informatique, qui sont non négligeables chez nos grands-parents, 3 000 euros par an, et 5 000 euros pour les travaux de jardinage, le tout dans une enveloppe de 12 000. Donc on a augmenté le sujet, mais on a demandé de justifier et d'indiquer quels étaient les bénéficiaires, là encore pour des raisons sociales et pour savoir qui déclare bien.
Et pour les salariés, il y a du nouveau ?
Pour les salariés, quelques nouveautés, une assez spécifique, c'est que les pourboires qui ont été reçus en 2022 et en 2023 pour les salariés qui sont en contact avec de la clientèle, dès lors qu'ils sont à un niveau de SMIC qui est 1,6, ils n'auront pas besoin de déclarer...
D'accord, les pourboires.
Ce sera exonéré de revenus et de cotisations sociales. Le plafond également des heures supplémentaires qui a été exonéré d'impôt sur le revenu, il est porté de 5 000 à 7 500. C'est donc pas du tout négligeable à compter du 1er janvier. Enfin, les frais de covoiturage qui sont engagés, eh bien, on considère que ce sont des frais qui rentrent dans les frais professionnels. Vous savez, vous avez 10% ou les frais professionnels. Vous prenez les frais professionnels, si c'est supérieur à ces 10%, vous pourrez fournir les frais de covoiturage. Alors, il faut documenter son sujet, mais c'est ça.
Enfin, c'est d'ailleurs pour tout le réel, hein. Quand on choisit de passer au réel, c'est une discipline. Voilà, hein. On peut y gagner, mais c'est aussi beaucoup de travail. Qu'est-ce qu'il faut comment se préparer ? Est-ce qu'il y a des points d'attention quand on a tout, quand on réunit ses papiers, quand
Alors, on a plusieurs cas, par exemple. On a si je suis marié ou pacsé ou que j'ai divorcé dans l'année. Donc ça, c'est un sujet.
Ça, s'il y a un changement.
Il y a un changement. Donc, le Code général des impôts est clair sur le sujet. Les contribuables mariés ou pacsés doivent faire l'objet d'une imposition commune. Néanmoins, si vous êtes marié ou pacsé en 2022, vous avez la possibilité d'opter pour le dépôt d'une déclaration séparée. Donc, il y a un calcul à réaliser pour savoir si, avec une part, c'est plus intéressant qu'avec deux parts. Chacun sa déclaration, mais pour la seule année du mariage ou du PACS, donc. En cas de divorce en cours d'année, les ex-époux sont soumis chacun à une imposition distincte pour l'ensemble de l'année au cours de laquelle ils divorcent, dès le 1er janvier de l'année. Oui. Chacun des époux est donc personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé au cours de cette année.
Et les enfants ?
C'est aussi une des questions fréquentes. Que se passe-t-il pour les enfants et comment les prend-on en compte au moment de remplir sa déclaration ? Vous vous souvenez qu'en principe, les enfants, dès qu'ils sont majeurs, doivent quitter le nid familial et le nid fiscal. Une sorte du foyer fiscal. Sauf que, dans l'hypothèse où ils poursuivent des études, jusqu'à l'âge de 21 ans, première étape, ou 25 ans, deuxième étape, ils ont la possibilité d'être rattachés au foyer de leurs parents. Donc, pour l'imposition des revenus de 2022, on a le choix entre rattacher ses enfants ou bien opter pour une pension alimentaire si les enfants sont dans le besoin. C'est-à-dire qu'il faut justifier aussi si vous avez un enfant qui a fait une start-up et que il a empoché quelques millions d'euros, peut-être
il n'a pas le droit à la pension alimentaire.
Bon, cette pension déductible pour enfants majeurs, elle est de 6 368 euros, pardon pour les petits chiffres, par enfant. Et on conseille à nouveau toujours de conserver les justificatifs.
Bon, ça c'est si l'enfant entre guillemets étudie, mais si à côté de ses études ou s'il fait un petit job, un job d'été, ceci cela, qu'il ait des revenus, faut les réintégrer dans nos...
Alors on a deux sujets. On a le job étudiant et on a le stage dans le cadre de ses études et assorti d'une convention de stage. Donc les revenus, par principe, les revenus de l'enfant sont rattachés au foyer fiscal. Ça, c'est le principe. Donc, en revanche, au titre d'un emploi étudiant, ces revenus sont exonérés dans la limite d'à peu près 5 000 euros, 4 936. Ainsi que les indemnités de l'ECHAS, elles sont également exonérées, mais dans une limite qui est plus élevée, qui est presque 20 000 euros.
Ah oui.
Donc, c'est un sujet qui n'est pas... qui n'est pas inintéressant. Et il faut absolument, c'est pour ça que vous voyez les étudiants courir vers la convention de stage. Donc c'est avec l'université, l'université voit ça avec l'employeur, on a la convention. Et à ce moment-là, dans cette limite-là, le revenu de l'enfant est pour lui.
Et ça, c'est valable en France comme à l'étranger ou...
Alors, c'est aussi une question, c'est qu'on se dit, mais mon enfant est à New York ou est à, peu importe, en Angleterre ou en Italie ou à Barcelone, parce que Barcelone est un sujet d'élection. est-ce qu'il est non-résident ? Non, il n'est pas non-résident. D'abord parce que dans les conventions, on explique que lorsqu'on a des étudiants, on peut appliquer cette convention, mais dans le principe général, l'enfant, il est quand même à votre charge. Et donc, vous pouvez le rattacher au foyer fiscal. Et s'il perçoit des revenus à l'étranger, on reste dans le même sujet. C'est-à-dire qu'on aura les exonérations.
On a parlé des enfants, mais les parents ? On là peut aussi, avoir des frais aussi, pour autre, nos aïeux.
Autre sujet compliqué et questions qui sont très fréquentes. Donc, le législateur, depuis déjà longtemps, autorise les contribuables qui ont des dépenses en maison de retraite, ça c'est pour les bénéficiaires de la maison de retraite, à bénéficier d'une réduction d'impôt. Celle-ci est de 25% des sommes réglées pour l'hébergement et la dépendance durant l'année, mais avec un plafond global de 10 000 euros. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est 2 500 euros. Ce n'est pas gigantesque. Surtout quand on sait que les retraites sont peu élevées.
Ouais. Voilà donc pour la famille. Maintenant, si on a des revenus, un peu quels qu'ils soient, enfin voilà, on ne va peut-être pas avoir le temps de rentrer dans tous les détails de tous les types de revenus, mais si on a des revenus de sources étrangères.
Alors, si on a des revenus de source étrangère, la première chose, c'est qu'il faut vérifier, l'administration est assez attentive à ça, c'est est-ce que oui ou non on a un compte à l'étranger ? Il faudra donc déclarer le compte à l'étranger. C'est une déclaration 3916, date d'ouverture du compte, lieu de situation de la banque, et ça concerne aussi tous les comptes,
toutes les crypto-banques,
exactement, tout ça.
Néo-banques.
Voilà. Et donc, vous devez déclarer vos revenus mondiaux. Certaines banques font le travail pour vous. C'est-à-dire qu'elles vous aident à la déclaration. Certaines banques ne le font pas, et vous avez un certain délai, notamment dans le cas de dividendes. Vous devez les déclarer le mois qui suit la perception de ce dividende, pour dire à l'administration française. Et si la banque le déclare, et si les banques étrangères le font, il arrive Suisse, Luxembourg ou autre, elle va prélever une retenue à la source, qui n'est pas une retenue libératoire, mais qui est une espèce d'avance d'impôt, parce que on avait, au moment où on avait changé la loi, on avait trouvé que c'était astucieux d'avoir un prélèvement, de ne plus avoir de prélèvement et d'être payé. D'être taxé non pas sur une flat tax, mais l'impôt sur le revenu. Puis l'administration s'est aperçue, du moins le Trésor français, que cette rente régulière, il ne l'avait plus. Donc on a imposé ce prélèvement forfaitaire non libératoire.
Voilà donc pour... Et les cryptos, c'est pareil ?
Alors, pour les cryptos,
eh bien, souvent, c'est
clair, depuis le 1er janvier 2020, c'est pas... Mais les comptes d'actifs numériques détenus, alors sur les comptes qui s'ouvrent ou qui se ferment, en fait, tout mouvement sur un compte, ouverture de compte, fermeture de compte, vous devez l'exprimer. Vous devez l'exprimer dans ce 3916. Et donc, pour les comptes crypto, vous aussi, vous les reportez. Si vous ne le reportez pas pour les cryptos, c'est 750 euros. Pour un compte non crypto, c'est 1500 euros. Et ça, c'est par compte et par année. Donc, il vaut mieux faire ça.
Ouais,
et en plus...
Il vaut mieux pas se tromper. Et y compris si c'est le bambin qui joue avec les cryptos.
Exactement. Et puis, vous êtes allé séjourner parce que vous travaillez en Belgique, vous revenez. Mais j'avais un compte en Belgique. Il faut le déclarer. Oui, vous devez le déclarer. Ouais. Parce que par le Common Reporting Standard, les États informent la France que vous avez un compte à l'étranger. Ce qui peut attirer l'œil.
Il y a une nouveauté quand même, alors qui n'est pas directement liée à la déclaration d'impôt, mais qui concerne nos biens immobiliers. Il y a une nouvelle obligation déclarative. Qu'est-ce?
Alors... Là encore, on en a parlé tout à l'heure, suppression de la taxe d'habitation pour la résidence principale.
Eh oui, mais pas pour le reste.
Mais pas pour la résidence secondaire. Et la question aussi, c'est j'ai un bien dont je suis utilisateur, ou pas, mais que je ne mets pas en location. Donc il y a aussi la taxe sur les locaux vacants. L'administration s'est dit, il faut peut-être que je fasse un peu de ménage, c'est un peu flou. Autrefois, on avait des registres papier.
Je ne sais plus trop bien qui habite où.
On demandait au locataire de dire qui partait, qui était le locataire, qui allait le suivre. C'était difficile. Donc maintenant, sur votre espace personnel aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'informations qui concernent votre immobilier. L'administration l'a fait à partir des transactions immobilières. Elle a vérifié et donc elle vous donne des informations. Et ces informations, vous allez devoir d'abord les vérifier. Et ensuite, vous allez déclarer un certain nombre de choses ou vérifier.
Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de renseignements demandés.
Énormément. On va vous demander des éléments de surface. Dans les actes, c'est pas toujours très clair. Et puis vous avez acheté il y a très longtemps. C'est plus un acte loi Carrez. Mais là encore, ce qu'on vous demande, c'est, si je puis dire, à la grosse. Parce que vous dites, j'ai 4 pièces, mais avant, il y en avait peut-être 3, ou il y en avait peut-être plus, peu importe. Ce qu'on va regarder, c'est la masse. Il est clair que si vous avez fait des travaux, l'administration, elle va rester sur son programme, oui, et elle va regarder le nombre de pièces habitées habitables, la surface des bâtiments, distinguer les bâtiments d'habitation de ceux qui ne le sont pas, parce que c'est pas la même nomenclature, c'est pas forcément les mêmes taxes. Donc si on est d'accord et qu'en ayant vérifié tout ça, on ne change rien, si on n'est pas d'accord, on va sur son espace personnel et on procède au changement et on informe l'administration de ces changements.
Ouais. Donc il y a beaucoup de détails, il y a une date limite là ou c'est comme les impôts ?
Alors la date limite c'est 30 juin.
30 juin.
Au plus tard le 1er juillet. Donc il faut faire tout ça. Préciser qui occupe le local et la nature de l'occupation. Est-ce que c'est une jouissance à titre gratuite ? Est-ce que c'est un locataire ? Est-ce que c'est... Tous ces éléments-là devront être fournis. L'identité des occupants, si c'est des tiers, et le type de contrat, location, pas location, location à long terme, location à court terme.
Et ça va avoir, entre guillemets, à voir avec l'IFI ou pas ?
Alors, forcément, ça donne des éléments de comparaison pour l'IFI, ça peut donner des éléments de confort, puisque taxe d'habitation et taxe foncière étaient fondées sur des valeurs locatives de 1970, et on sait que c'est un sujet qui pêche. Maintenant, si on rehaussait tout, ces impôts seraient monstrueux aujourd'hui.
Pour terminer, parce qu'on est un peu pris par le temps, il nous reste un peu moins d'une minute, on a entendu beaucoup parler de fiscalité aussi ces dernières heures avec le ministre chargé des comptes publics, qui nous a dit il y aura un accroissement des contrôles fiscaux pour les contribuables les plus aisés, pour les entreprises, il y aura des poursuites, enfin bref, de l'interpellation sur l'optimisation auprès des professionnels. Comment est-ce qu'on appréhende un peu tout ça quand on est à votre place, Jérôme ?
Alors,
qu'est-ce qu'on s'en dit et qu'est-ce qu'on...
Voilà. Quand on est à ma place, on est ravis d'avoir été prudent.
Oui.
C'est-à-dire que là, ce sujet qui se goûte beaucoup d'esprit, et on peut le comprendre, il dit attention à la grande délinquance fiscale. La grande délinquance en col blanc, c'est-à-dire l'intention de frauder. Je ne parle pas de l'organisation patrimoniale, de faire une donation avant une cession. Tout ça, je pense que c'est prévu par la loi, il n'y a pas de sujet. Mais... ce que l'on dit aujourd'hui, c'est que les brillants esprits conseillés par des gens un peu audacieux, trop audacieux, avec des volontés de faire des sociétés écrans, de passer par des pays dont la fiscalité, on le sait, est pas très violente, où les contrôles ne sont pas très violents, etc., etc., ça, on va les sanctionner. Et l'idée, c'est de dire, on va augmenter de 25% les tri- Alors, personnellement, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, parce que déjà, depuis l'époque où M. Sarkozy avait été ministre du Budget, un instant de raison, donc sous M. Chirac, et ensuite il a été président, il a remis un coup de vis également, ensuite M. Sapin a mis un très grand coup de vis, aujourd'hui vous avez des fonctionnaires des impôts qui sont extrêmement employés dans les grandes brigades de vérification, des VNI, des NVSF, DIRCOFI, Direction de Contrôle Fiscaux, sont des gens qui travaillent beaucoup. À partir du moment où, quand vous recevez un rehaussement potentiel d'impôt, proposition de notification de redressement, vous n'avez non pas un délai de 30 jours, mais vous pouvez renouveler ce délai de 30 jours, vous avez 60 jours, vous n'avez plus de saisonnalité de l'envoi des déclarations, des rectifications. Autrefois, on ne vous envoyait pas un 14 juillet un courrier parce qu'on savait que vous pouviez être en vacances et que vous n'aviez que 30 jours. On ne voulait pas vous coincer. Maintenant, comme vous avez 30 jours plus 30 jours, 14 juillet, 15 août, 15 septembre, vous avez normalement le temps de répondre à l'administration fiscale.
Non.
Donc, en redonnant un coup de vis et en mettant le point sur la question de la fraude, cette fraude, elle est aussi... Il y a des gens qui sont probablement, ou des contribuables qui sont probablement un peu... assoupis sur le fait qu'ils étaient ou non résidents fiscaux français. On a pris peut-être parfois des habitudes.
Et là, ça peut faire
reprise
mal.
Ici aussi. Quand on part vraiment.
Ouais.
Si on n'est pas parti vraiment, on pourra avoir quelques soucis.
Bon, il y a quand même une bonne nouvelle pour terminer, juste en une poignée de secondes, c'est que le droit à l'erreur, il reste bien là.
Le droit à l'erreur, pour la petite erreur, oui, il restera là. Là encore, soit vous restez tassé dans votre coin, vous ne bougez pas, et un jour on viendra vous voir, soit vous dites « je m'ai trompé ». Bon, l'administration, elle est contente de récupérer ses fonds. C'est ça ce qu'elle recherche.
Bien sûr.
Elle cherche pas à vous ennuyer. Elle cherche à récupérer son dû.
Merci beaucoup d'avoir disséqué cette déclaration d'impôt et on espère vous avoir donné un maximum de réponses ce matin. Jérôme Barré et le cabinet Yards qui nous accompagnait aujourd'hui. À très bientôt.
À très bientôt.
Le marché parisien, pour le moment, en hausse de 0,7%. On va voir ce qu'en dit Jean-Louis Cussac dans un instant.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Allez, on file sur le marché pour entamer cette dernière demi-heure. C'est Jean-Louis Cussac qui suit la séance pour nous ce matin. Rebonjour Jean-Louis, comment interpréter cette petite hausse de 0,7% de l'indice CAC ?
Alors on a fait un arrêt au stand, hein. Le marché a continué de baisser un petit peu après notre point de 10h30 là, et puis on a fait 0,5 de retracement. Alors en général, quand on baisse comme ça de 0,5, c'est exploitable, c'est-à-dire qu'on se dit on est dans une tendance haussière, il faut privilégier les achats, j'ai un petit repli, j'y vais. Alors on y va, là, moi j'y suis allé, mais à peine, parce que je m'étais dit pourquoi pas étaler entre 7400 et puis 7380. Je parle du futur MES, c'était les deux niveaux que je m'étais mis en tête pour essayer d'acheter et puis optimiser l'écart potentiel si jamais le rebond se fait. Et je continue tous les jours comme ça, hein, jusqu'à que l'on casse 7270, qui sera l'infirmation de l'idée d'acheter systématiquement. On rentrerait dans une zone neutre, mais on en est assez loin aujourd'hui. Mais on a quand même approché cette zone, encore hier, 7310 en hors séance, précédemment 7288. Voyez-vous, on a flirté quand même avec ce niveau, ça valide l'idée et la stratégie de fond. Le volume, Cédric, 450 millions.
Là, à 11h30.
Ce sont des chiffres qu'on dépasse. Oui, vous vous rendez compte, à 11h30, ce sont des chiffres qu'on dépasse parfois, bien sûr, souvent, à 10h30. Donc, ça confirme l'idée que l'hésitation domine, que les acheteurs et les vendeurs ne se rencontrent pas. Les acheteurs attendent que ça baisse davantage, ça a tellement monté, et les vendeurs, bah, de toute façon, ils veulent pas vendre davantage parce que sinon après ils seront pas, enfin les vendeurs potentiels, donc ceux qui sont encore avec des lignes acheteuses importantes, bah ils se disent après tout, si ça remonte, je vais pas être dedans, donc je vends pas. Voilà, on est toujours dans un climat, si vous voulez, de suspicion, de doute, et donc c'est pour ça que tout l'ensemble, si vous voulez, du contexte de marché ne favorise aucune initiative importante. Et donc, on a des marchés, depuis quelques jours, qui réagissent à des statistiques, à des, voilà, et uniquement, pratiquement, à des statistiques, et qu'à des statistiques. L'euro-dollar a baissé, et il est venu, là, sur un niveau d'achat potentiel sur repli. 1,09, 20, 30, on a commencé à 43 ce matin. C'est une zone d'achat possible. Alors après, très bien, si vous voulez, comme là, il a dérivé un petit peu depuis une heure, il s'est stabilisé. On peut attendre qu'il amorce un rebond, donc avoir un signal technique pour rentrer sur l'euro-dollar. Mais l'euro-dollar reste dans une tendance haussière non affirmée. C'est vrai qu'on a eu du mal à franchir les 1,11, on n'a pas réussi, on a buté sous ce niveau. On rebaisse encore une fois, chaque fois on se dit... C'est peut-être la bonne, attention, faut être méfiant, mais à chaque fois ça rebondit aussi. Mais c'est le même état d'esprit que le CAC 40, c'est-à-dire qu'on tente d'acheter sur des replis, sur D'accord. des petits retracements. Donc on a un comportement opportuniste.
Merci beaucoup Jean-Louis Cussac, donc Perceval Finance Conseil, et notre marché parisien qui progresse de 0,68%, 7411 points.
Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur hsbc.fr. Votre rendez-vous avec Moneta Asset Management, notre savoir-faire action pour votre épargne depuis plus de 18 ans.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Les produits structurés peuvent-ils être une ou la martingale des marchés, de ces marchés actions qui sont un peu en dents de scie avec des taux élevés? Question à laquelle est venu répondre il y a quelques jours Géraldine Métifeux pour Alter Egal. Et on accueille maintenant Géraldine Métifeux pour Alter Egal. Bonjour Géraldine.
Bonjour Cédric.
Les produits structurés, puisque c'est de ça qu'on va discuter ensemble, pourraient-ils être la martingale avec nos marchés actions un peu en dents de scie et nos taux élevés? D'abord, effectivement, ce contexte, et puis un petit peu rappeler ce que c'est qu'un produit dérivé. Alors d'abord, pourquoi le contexte, effectivement, marché un peu hésitant, des taux élevés, les questions d'inflation, enfin voilà, on voit bien que c'est pas simple.
C'est cet ensemble-là. Et puis, si on regarde quand même depuis 3-4 ans, Cédric, c'est compliqué de surfer les vagues. Quoi. C'est-à-dire que la hausse du CAC 40, tout le monde est passé à peu près à côté. La baisse de l'année dernière, y compris sur les obligues, tout le monde est passé à peu près à côté. Enfin, ce qui veut dire que c'est compliqué d'anticiper dans les allocations. Et puis.
On court un peu après.
Courir après un train en marche, c'est compliqué. Quoi. Donc, voilà. Et puis, deuxième point, on a quand même des clients qui sont moins patients. Ils sont un peu 3.0, c'est-à-dire qu'il faut tout de suite une réaction, tout de suite être dans le bon truc. C'est compliqué. Et donc, pour les faire patienter, entre guillemets, parce que ça peut pas être la seule réponse, mais ça peut être une des réponses. Et donc, une sorte de martingale par rapport à cela, ça peut être le produit structuré. Et le produit structuré, il présente l'avantage d'être extrêmement carré, précis, simple dans la lecture, simple dans le fonctionnement. D'abord, il faut savoir que juridiquement, c'est un titre de créance, c'est-à-dire une obligation. Donc on y reviendra sur les risques, parce qu'il faut que l'émetteur soit fiable naturellement. On a une durée d'investissement qui est connue à l'avance, une durée minimum, une durée maximum. On a une forme de remboursement, ce que vous indiquez, hein, qui est claire. C'est-à-dire on sait quand est-ce qu'on récupère le capital, quand est-ce qu'on touche les coupons. On a une protection du capital qui est prédéfinie. Donc on sait globalement quel est le risque qu'on prend. Donc pour prendre votre expression de Stéphane, bah là du coup on qualifie son risque, donc c'est encore plus simple. Et puis c'est la seule classe d'actifs avec une obligation de résultat, c'est-à-dire que si les conditions sont réunies, eh ben on paye.
On sait, oui. Malgré tout, ça relève quand même, enfin, quand on dit on prend une action A, oui. On a une action A, on sait ce que c'est la part d'une entreprise qui fait tel produit, bon, voilà.
Oui.
Quand on prend un produit structuré, c'est quand même beaucoup de formules mathématiques, etc.
C'est complexe.
Avant d'ailleurs, on les appelait un peu fonds à formule.
On les appelait parfois encore fonds à formule. C'est encore sous l'œil de la CPR, une des autorités de contrôle.
Donc, comment ça marche exactement?
Alors, comment ça marche? Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est peut-être vous donner un exemple.
Très bien. Allons-y.
De quelque chose qu'on a lancé chez Alter Egal et qui strike, c'est-à-dire qui constate demain. Donc, on ne peut pas être plus dans l'actualité. Là, on a pris un produit structuré qu'on appelle Phoenix, c'est-à-dire que c'est une catégorie des autocalls, donc rappelables. Et Phoenix, ça veut dire qu'on distribue le rendement tout au long de la vie du produit. On n'attend pas la fin du produit d'être rappelé pour toucher tous les rendements. C'est plus concret quand même pour l'épargnant de toucher tous les trimestres, tous les semestres, le rendement prévu. Là, on a pris comme sous-jacent une action. On aurait pu prendre un indice.
Bien sûr.
Souvent, l'action paye un peu mieux parce que plus de risques, plus concentré. On a pris Renault. Clairement, le truc pas sexy, mais nous, on s'en fiche. On ne veut pas gagner, que Renault gagne de l'argent. On veut qu'il n'en perde pas trop pour que nos conditions soient réalisées. On a calé les conditions suivantes. Donc, on fait constatation le 10 mai, durée vie du produit, minimum un an, donc jusqu'au 10 mai 2024, maximum 5 ans. C'est-à-dire que même si à aucun moment des constatations trimestrielles, Renault repasse au niveau initial ou au-dessus, de toute façon, il se rétablira dans 5 ans. Quel est le rendement qu'on promet? On promet un rendement de 7,60% par an, c'est-à-dire 1,90% par trimestre, parce que dans cette formule, on a proposé à nos clients de toucher le coupon chaque trimestre.
D'accord.
90, 7,60, même avec des frais, ce que j'entends, hein, les frais sur les contrats, les comptes titres, etc. Ça reste très sexy, et pour l'inflation, et pour reparler de l'inflation, là, on couvre l'inflation avec ce type de produit. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tant que le titre Renault, bien connu, ne perd pas plus, parce que notre protection est jusqu'à 50% de perte à la fois sur le coupon et à la fois sur le capital. Tant que Renault ne perd pas plus de 50% par rapport à sa valeur de demain, à la clôture, alors le client, l'épargnant, va toucher son rendement de 1,90 chaque trimestre.
Mais c'est-à-dire qu'il faut souscrire avant-demain?
Non, pour celui-là, c'est foutu, mais... c'est un exemple, Cédric. Ouais. N'hésitez pas à nous appeler, il y en a d'autres. Mais pour nos clients, effectivement, c'est exactement ça. Oui, parce qu'effectivement, comme vous l'avez souligné, c'est des fonds avec des échéances. Donc, réalité, il y a des dates pour souscrire. Donc là, en l'espèce, c'était genre... je crois que c'était hier ou un truc comme ça, mais parce que j'ai pas tous les trucs administratifs en tête, mais ça fait à peu près cela. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que 50% de protection sur le titre Renault, c'est pas une garantie, mais c'est quand même une belle protection. Ouais. On peut louper un coupon. On ne prend a priori pas tous les coupons, alors ça veut dire qu'on est vraiment très mauvais. Et une protection à 50% du capital à terme, normalement, à la fois, ce n'est pas une garantie, à la fois, c'est encore une fois une très belle protection.
C'est-à-dire que jusqu'à 50% de baisse,
ouais,
ça marche.
Oui, exactement.
Et à 50,01%.
Alors, dans ce cas-là, on perd le coupon.
C'est ça.
Éventuellement, on perd en capital. Du coup, on arrive un peu sur les avantages, vous avez bien compris. On va... comment dirais-je, assurer un maximum de fois où on va gagner. Donc là, j'avais un contrat au-dessus de moins 50, donc ça fait quand même plein de fois. On va, du coup, avoir besoin de choisir correctement l'émetteur et le broker, c'est-à-dire, au fond, comment on choisit le titre? Est-ce qu'on va être dans le bon timing pour ce titre, et ainsi de suite? Tout ça, c'est ce qu'il faut qu'on regarde et qu'on fasse attention à cela.
Quels sont les risques, justement? Parce que là, on a vu qu'effectivement, voilà, mais ça reste quand même quelque chose qu'il faut comprendre. Et donc, pour assumer un risque, il faut l'avoir mesuré.
Absolument. Les risques, on va les rappeler sur trois ordres. Il y en a même plutôt quatre, mais les trois les plus importants, c'est qu'attention, on est capé en gain. Si Renault, sur la période, fait 25%, vous gagnerez que 7,60. Hein. Donc ça peut être frustrant dans les années où ça fonctionne. Alors, les années où tout baisse, les gens sont ravis, mais on a des années où ça gagne de temps en temps. Et puis, celui, c'est que les conditions ne se réalisent pas. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Là, donc, on fait 10 mai, on arrive juin, juillet, août. On a à ce moment-là Renault qui est à moins 51, je ne touche pas le coupon. Donc, c'est un peu frustrant. Ou je ne touche jamais le coupon pendant les 5 ans à venir, je suis rappelé et donc j'ai perdu de l'argent. C'est a priori, vu le niveau de protection prix, c'est peu probable, mais en tout cas, c'est une possibilité. Mais bien sûr, c'est une possibilité. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est celui du défaut de l'émetteur. On l'a souvent évoqué, les problèmes de Crédit Suisse et ainsi de suite. J'ai dit tout à l'heure que c'est une obligation. Ça veut dire que si l'émetteur de l'obligation fait défaut, le client, l'impertinent, se retrouve sans son argent. D'où l'intérêt de choisir correctement l'émetteur, c'est-à-dire le mieux noté possible.
Et donc là, effectivement, c'est sur Renault, mais ça pourrait être sur un indice, ça pourrait être sur...
Oui. Alors, il y a plein de formules possibles. On essaie de trouver les formules les moins compliquées parce que déjà, celles-ci sont pas forcément tout à fait aisées à comprendre. Si je multiplie, ça va être plus compliqué.
On dit souvent, quand on investit, qu'il faut comprendre son produit. C'est valable pour de l'IMO, sur du Pinel, sur... Enfin bref. Là, tous vos clients, entre guillemets, ils comprennent vraiment le produit ou il y a aussi une part de confiance avec son interlocuteur.
Alors, je pense qu'ils comprennent parfaitement que si ça ne se casse pas la figure, ils touchent des sous. Ce qu'ils comprennent un peu moins bien, c'est la valeur liquidative du produit pendant toute la vie du produit. Parce que vous l'avez bien compris...
Donc ils comprennent la protection, mais le fonctionnement...
Pas forcément. Et donc une valeur liquidative en baisse pendant toute la durée du produit, parce que c'est souvent le cas, compliqué pour le client de pas croire pour lui qu'il a perdu de l'argent. Or, c'est vraiment un produit de portage. Ce qu'il faut qu'il comprenne, c'est qu'on prend un pari.
Il faut aller au bout, quoi.
Alors, il comprend un pari, c'est-à-dire qu'on prend le pari que Renault, dans notre exemple, ne perdra pas plus de 50%. Et que pour ce faire, on va être payé de ce risque et de ce pari.
Juste pour terminer, vous dites de portage. Ouais. Ça veut dire que si au milieu de l'opération, j'ai besoin de mon argent...
Ça m'arrange pas.
Voilà, c'est ça.
C'est que ça m'arrange pas.
Non, mais c'est-à-dire que moi, épargnant...
Non, on est vraiment sur du terme assez long. Alors là, on a pris un produit qui est sur 5 ans, mais sur les indices, ça peut arriver que ce soit 8 ans, 10 ans. Donc, il y a des périodes où on peut sortir, parce que si on sort juste avant la distribution du coupon, souvent la valeur liquidative va techniquement intégrer la valeur du coupon. Si on a déjà touché 4, 5 coupons, et qu'on a une valeur liquidative qui est à moins 6, moins 7, en réalité, on va sortir flat, puisqu'on a on peut réintégrer dans la valeur liquidative le montant de ses coupons. Mais c'est cette particularité qui est un peu compliquée. Et oui, pour moi, il faut garder le produit jusqu'au bout. Sinon, ça peut être très décevant et pas une bonne expérience.
Merci beaucoup, Géraldine. Et Géraldine Métifeu et Alter Egal qui nous emmenaient ce matin dans ce monde des produits structurés qu'on évoque tout de même de plus en plus, surtout dans nos marchés un peu particuliers. Merci, Géraldine. À bientôt.
Merci, Cédric.
Le marché parisien, plus 0,63% pour le CAC, 7407 points. Et tout de suite, on répond à toutes vos questions.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Thierry Vignal est en plateau avec nous. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Co-fondateur de Mastéos. D'habitude, on vous retrouve plutôt en début d'émission pour la vie IMO. Mais là, on a eu pas mal de questions qui tournaient autour de cet immobilier, de cette acquisition, de cette rénovation. Et on s'est dit qu'on allait faire un peu une spéciale IMO en répondant aux questions des auditeurs. Et merci de vous être prêté à l'exercice. On commence avec cette question que nous envoie Marie. Pourquoi est-il recommandé d'investir dans le locatif plutôt que dans d'autres classe d'actifs?
Très bonne question. L'avantage de l'investissement immobilier locatif, c'est qu'on va faire travailler l'argent des autres. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Donc en fait, c'est la banque qui va financer le bien et ce sont les locataires qui vont rembourser la banque. Modulo notre apport et éventuellement un petit effort d'épargne tous les mois, on fait essentiellement bosser l'argent des autres. Ça, c'est un grand avantage qu'on ne va pas retrouver sur le trading boursier ou sur les cryptos, j'en sais rien, les autres classes d'actifs offrent pas cet effet de levier. C'est un grand avantage. Le deuxième avantage, c'est que ça permet de construire un patrimoine de manière extrêmement prédictible. C'est-à-dire qu'on va construire son patrimoine loyer par loyer, mois par mois, brique par brique, et on n'a pas cette prédictibilité horlogère à la bourse ou ailleurs. C'est que dans la pierre qu'on peut le faire.
Donc, faire travailler l'argent des autres et avec un plan, entre guillemets, d'investissement qui est quasiment dessiné. Et du coup, Julien s'interroge, est-ce qu'on est dans une période favorable pour investir dans ce locatif?
Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, comme dirait Édouard Baird dans Astérix. Il y a ce moment et attendre coûte assez cher. En fait, chaque mois d'attente, c'est un mois de loyer qu'on ne va pas percevoir. C'est potentiellement des taux qui augmentent, etc. Et on a... Il n'y avait pas de bon moment. Avant, les prix étaient trop chers, et puis il y a eu un Covid, il y a eu la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, il y a les taux qui sont un peu élevés. Demain, il y aura autre chose. Et finalement, à force d'attendre, on investit.
Vous voulez dire, il y a toujours une bonne raison
d'attendre.
De reporter l'investissement.
Ouais. Et finalement, on reporte pendant 5 ans, on perd 60 mois de loyer. C'est potentiellement 50 000 euros qu'on aurait pu toucher de manière assez passive. Et c'est dommage. Donc, il n'y a pas de bon moment. Il y a maintenant, les prêts, ça se renégocie à la baisse quand les taux rebaissent. Si aujourd'hui, les taux sont élevés, c'est parce qu'il y a beaucoup d'inflation. Et le meilleur moyen de s'en protéger, c'est en investissant dans l'immobilier, parce que les loyers sont corrélés à l'inflation à la hausse, la dette ne l'est pas. Donc finalement, on emprunte à taux réel négatif, comme disent les économistes, puisqu'on emprunte sous le niveau de l'inflation.
Donc, on monte son dossier, on regarde toutes les métriques, et si ça passe, ça passe, c'est le bon moment. On verra s'il y a des métriques qu'on peut renégocier après, mais on ne se cherche pas de fausses excuses pour essayer de grappiller quelque chose qu'on grappillera probablement pas.
Attendre coûte plus cher que l'excuse en général.
Question de Pierrick. Pour un premier investissement immobilier, est-ce qu'il est préférable de commencer par sa résidence principale? C'est vrai que c'est souvent ce qu'ont tendance à conseiller les hommes de l'art, ou plutôt pour un investissement locatif?
Alors, étant moi-même homme de l'art, je suis un peu...
Je parlais du patrimoine, plutôt.
Un peu biaisé. Ouais. Mais en tout cas, il n'y a pas de bonne réponse, sauf celle qui concerne plutôt le confort personnel. Typiquement, la question se pose pour un ménage parisien qui est locataire de son, 50 mètres carrés à Paris, qui paye 1500 euros par mois, parce que le loyer au mètre carré à Paris, c'est 30 euros. Donc, on va dire qu'il a 50 mètres carrés pour 1500 euros par mois, et ce ménage-là se dit, j'ai envie d'acheter l'équivalent. Eh ben, 50 mètres carrés, c'est 500 000 euros à 10 000 du mètre à Paris. 500 000 euros, c'est 3 000 euros de mensualité par mois sur 20 ans. Et donc, ça double. Donc, la question, c'est, est-ce que j'achète deux fois plus petit, ou est-ce que je reste locataire? Et si je reste locataire, est-ce que je vais laisser ma capacité d'emprunt dormir sans l'exploiter? Ben non. Donc la réaction, en général, chez nos clients, c'est je reste locataire à Paris pour avoir une plus grande surface et j'exploite ma capacité d'emprunt ailleurs, dans une ville probablement plus rentable que Paris. C'est 40% de nos clients qui font ce choix de rester locataire.
Donc ça, c'est le calcul qu'il faut faire pour trancher la question posée.
C'est un calcul de confort plus
que
financier. Ouais.
De se dire, on regarde déjà là où on peut aller.
Je peux acheter en équivalent.
Louise, dans la perspective d'un investissement locatif, est-ce que vous pourriez aider Louise à définir son budget moyen?
Alors le budget aujourd'hui, il est très déterminé par l'apport. Il y a des gens qui ont une capacité d'emprunt assez forte, mais qui ont peu d'apport, ça existe. Et d'autres, c'est l'inverse. Mais pour la majorité des gens, maintenant que les banques demandent de l'apport, ce qui n'était pas le cas avant... Où on
avait donc c'est plus son contrat, c'est plus son salaire, enfin...
Si, mais l'élément qui va bloquer la plupart du temps, ça n'est plus tant ça, c'est vraiment l'apport disponible. Avant, les banques en demandaient très peu, voire pas du tout. C'était l'âge d'or d'il y a 2 ans, voire 1 an. Maintenant, les banques en demandent 15% en moyenne pour un investissement.
Et souvent,
locatif.
En plus, une épargne résiduelle.
Exactement. Ouais. Donc c'est vraiment le niveau d'apport disponible qui va déterminer le budget. Typiquement, si j'ai 15 000 euros disponibles, je vais avoir un budget empruntable, quel que soit mon salaire, d'environ 100 000 euros. Si j'ai un CDI, que j'ai une capacité d'emprunt. Et donc, avec 100 000 euros, on peut déjà faire des choses merveilleuses. On en avait parlé dans d'autres émissions. On peut aller au Havre, à Nîmes, on peut aller à Brest et faire des superbes opérations avec 100 000 euros. Et c'est bien pour commencer. Mais c'est l'apport qui détermine le budget. Et ensuite, on regarde les salaires... Si ça correspond.
Apport qu'on peut constituer, par exemple, en sollicitant sa famille, en sollicitant un prêt au zéro.
Une grande tante, ouais. Éloignée.
Éloignée, oui. Valentin voudrait savoir quel niveau de rendement il peut espérer en investissant dans le locatif. Bah là, j'ai envie de dire, ça dépasse, non?
Ça dépend, mais il y a quand même une moyenne nationale qui est autour de 6% brut. Ça veut dire que si on prend le loyer moyen généré en France versus le prix moyen d'un bien locatif, on est à 6%. Donc, ça donne déjà un repère. Il faut se rappeler quand même que le rendement, il est strictement corrélé au risque. Aux ennuis.
Oui, bien sûr.
Et donc, une fois qu'on sait ça, c'est juste un arbitrage. Est-ce que je suis prêt à sacrifier du risque ou du temps ou de l'énergie qui va être un équivalent pour avoir plus de rendement? Typiquement, j'en ai fait les frais personnellement, on est attiré par les sirènes du rendement, je ne sais pas, par exemple à Roubaix, les biens sont très rentables, mais les locataires sont compliqués, et si on a un bien rentable, c'est que le bien a été acheté pas cher, s'il est pas cher, c'est qu'il y a une raison. Voilà, donc tout est corrélé, et c'est un arbitrage à faire, et on va y chercher à déterminer le niveau d'effort d'épargne avec lequel on est confortable, parce que souvent aujourd'hui, les biens locatif nous force à faire un effort d'épargne tous les mois qui est sain, et c'est ça qui va calibrer le risque que je vais prendre.
Bon, mais on dit souvent que la moyenne, elle concerne personne finalement, donc si on retraite un peu, si on fait un rendement médian, on a une idée ou...
On va aller chercher, sans prendre trop de risques, entre 5 et 6 bruts. D'accord. Et ça va faire du 3-4 net. Le but, c'est d'être au-dessus de ces taux-là. Ouais.
Alors justement, tiens, puisque vous nous disiez qu'il y a des endroits où il faut peut-être mieux pas mettre son immobilier, Angèle voudrait savoir quel est le meilleur secteur géographique pour investir dans ce locatif.
Bonjour Angèle. Et le meilleur endroit, il va surtout dépendre du budget, parce que pour chaque budget, on a une ville à risque égal qui va maximiser ce potentiel. Donc si on a un budget typiquement de 300 000 euros, on va pouvoir aller à Malakoff, Courbevoie, Clichy en Ile-de-France. Si on a un budget à 200 000 euros, on va plutôt se tourner vers du Bordeaux, Lyon, Nice, qui sont des villes à 5 000 du mètre. Si on a un budget à 150, on va aller voir du côté de Lille, Montpellier, Toulouse. Si on descend à 100, on va être sur Nîmes, Le Havre, Brest, etc. Et on peut même descendre à 50, on avait fait une émission dessus, où on va aller à Carcassonne, à Perpignan ou à Castres. Et donc on a des villes qui se prêtent à chaque budget, et avec des risques locatifs équivalents. Mais pour chaque budget, on a une ville qui maximise le potentiel locatif. Donc ça, il faut regarder l'émission.
Eh ben voilà, faut nous suivre régulièrement quand Thierry vient nous voir et effectivement qu'on chope un seuil ou une région ou même parfois une capitale à l'étranger. Y a-t-il, nous demande Estelle, un régime fiscal plus intéressant qu'un autre lorsqu'on s'engage dans cet investissement locatif ?
Oui. Réponse courte, oui. En général, le régime qui marche le mieux, qui est le plus efficace pour la majorité des gens, c'est le LMNP.
Loueur meublé non professionnel.
Voilà, c'est assez étrange d'avoir une grande dichotomie fiscale en France à travers le meuble. Alors voilà, c'est peut-être Ikea qui a décidé de ça. Mais en gros, si c'est meublé ou si c'est nu, ça change complètement tout. En l'occurrence, si c'est meublé, c'est plus avantageux fiscalement via ce régime loueur en meublé non professionnel. Pour aller encore plus loin, on peut prendre l'option réelle, qui est une option qui permet d'écraser le résultat fiscal jusqu'à zéro et donc pendant plusieurs années ne pas payer d'impôts sur ses revenus locatifs. Donc elle a même option réelle. Et pour les ambitions patrimoniale un peu plus costaud, on va plutôt se tourner vers la SCI à l'IS, qui est le régime...
Donc la SCI, Société Civile Immobilière, à l'impôt sur les sociétés.
Qui permet de pratiquer l'amortissement. En gros, tout régime qui permet de pratiquer ce qu'on appelle l'amortissement est un bon régime fiscal pour investir.
Allez, on termine. Il nous reste une minute pour répondre à Paula. Vaut-il mieux investir dans le neuf ou dans l'ancien lorsqu'on souhaite mettre en location ?
Le neuf, c'est plus facile parce qu'il n'y a pas de travaux. Et les travaux, on sait que ça ne se passe jamais
bien. Les travaux
bien.
Viennent d'être faits, a priori, effectivement.
Voilà. Donc au moins, on évite cette partie pénible. Mais compliqué de faire de bonnes affaires dans le neuf parce qu'on achète cher. Il y a des bonnes affaires, mais ce sont les promoteurs qui les font, pas les acheteurs. Donc, ça dépend de ses ambitions. Mais si on veut du confort en termes de si on veut dépenser le moins d'énergie possible, c'est une bonne idée. Si on veut maximiser le potentiel financier, on va plutôt se tourner vers l'ancien qui offre de meilleures affaires et qui est plus... en phase avec les problématiques sociétales actuelles de réhabilitation du parc ancien.
Parfois, on voit dernières opportunités à saisir sur les bulles de vente, etc. Là, c'est pas des bons coups dans le neuf.
C'est rarement des bons coups parce qu'il y a des marges de promoteurs et d'intermédiaires qui écrasent ce que peut gagner un acheteur là-dessus. C'est rarement des bons coups, mais en tout cas, ça permet de pas prendre trop de risques au niveau des travaux.
Merci beaucoup, Thierry. Thierry Vignal et Mastéos qui nous accompagnaient pour cette séance de questions-réponses spécialement dédiée à l'immobilier et à l'investissement locatif. À très bientôt.
Merci.
Dans un instant, c'est Sandra Gandoin. Bonjour Sandra.
Bonjour Cédric.
Journée exceptionnelle.
Ah oui, édition spéciale à partir de midi. Vous savez que cet après-midi, on part à l'Élysée à partir de 14h avec toute cette délégation de patrons qui est invitée à l'Élysée pour parler de réindustrialisation, de souveraineté. Eh bien, on a des patrons aussi sur ce plateau juste avant pour cette édition spéciale. Beaucoup de patrons. On aura Laurent Vronsky, on aura Caroline Deloy du groupe Gonzalez, on aura aussi Flying Whales, Exotech, beaucoup d'entreprises qui seront avec nous, Néolith aussi qui sera cet après-midi à l'Élysée pour parler des enjeux de cette réindustrialisation, de ce que ça va nous importer, de ce qu'il faut mettre sur la table pour que ce soit possible. Beaucoup d'invités donc à suivre dans les deux heures qui viennent avant cette édition spéciale jusqu'à ce soir sur BFM Business.
BFM Business à l'heure de la réindustrialisation et ça commence avec Sandra Gandoin dans une poignée de secondes. 90 minutes business donc. Nous, on se quitte sur un CAC 40 à 7404 points en progression de 0,59%. Et demain matin, c'est Étienne Braque qui sera aux commandes de BFM Patrimoine. Je vous retrouverai lundi matin. Très bon week-end.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.